La réponse est oui. Et je vais vous donner une information qui date de jeudi dernier, où un haut responsable de Tzal a déclaré aux journalistes que l'armée avait remarqué un mouvement de retrait du Hezbollah et même d'autres milices qui sont soutenues par l'Iran en Syrie, suite à de nombreuses frappes aériennes qui sont attribuées à Israël. Et ceci est un mouvement, manifestement, affirme cet officier, qui vient des frappes de Tzal. C'est très important, et vous allez me dire, mais quel rapport avec les Iraniens? Je crois que n'importe qui connaît un peu la situation au Proche-Orient sait que les Russes sont en Syrie, que les Iraniens menacent les Israéliens et que les Israéliens ont dû se faufiler entre les matériels de défense antiaérien russes, ont dû se retrouver face à une forme de menace des Russes, puisque Hezbollah et Russes sont alliés en Syrie. Donc, si les Russes commencent à montrer qu'ils ne sont pas l'ours qu'on a craint pendant des années, et tout le monde, hein, c'est unanime, jusqu'à Washington. Si on voit des Russes qui d'abord déjà nous montrent qu'ils n'ont pas l'armée qu'on a crue pendant des années, et qui plus est concrètement, qui se retrouvent avec moins de matériel, parce que tout est en train de se détruire en Ukraine. Moins de milices Wagner, moins de missiles sol-air, moins de S-300, c'est très important pour les Israéliens. Je rappelle cependant que les Russes ne sont pas les alliés du Hezbollah, faites bien attention à ça. C'est-à-dire que vous avez des alliances de circonstances au Proche-Orient, où Iraniens et Russes se retrouvent ensemble pour défendre Bachar el-Assad contre Daesh, ce qu'il en reste, mais disons, pour défendre l'allié commun qui s'appelle el-Assad, mais ça ne veut pas dire qu'on est ensuite amis. Et on a dit plusieurs fois d'ailleurs sur cette antenne que par exemple, si vous voulez, culturellement, Vladimir Poutine se sent définitivement plus proche de la culture de Benjamin Netanyahou que de celle d'un fou du Hezbollah au Liban, à Beyrouth ou à Téhéran. Mais c'est ses alliés, Vladimir Poutine a montré comment il gère les crises, et jusqu'à présent, les Israéliens faisaient très attention. D'ailleurs, on a même cru pendant un temps que seul Netanyahou pouvait faire ça, tellement il fallait du doigté et tellement c'était difficile. Donc oui, les échecs de la Russie en Ukraine servent nettement les intérêts israéliens, d'autant plus que Vladimir Poutine a commencé à être beaucoup moins amical avec Israël depuis qu'il n'a pas réussi à obtenir du gouvernement israélien qu'il soutienne son action en Ukraine. Bien sûr, c'était impossible. Il y a toute l'histoire aussi avec l'agent juif. C'est pas forcément, c'est-à-dire qu'on a fermé les portes des juifs qui voulaient partir. C'est pas forcément le sujet de ce soir, mais on y reviendra. Alors après, la deuxième question qu'on peut poser, c'est est-ce que les Israéliens peuvent faire comme les Russes? Et là, cette fois-ci, la réponse est non. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un tir de barrage d'Israël sur le Hezbollah, sur les milices pro-iraniennes en Syrie, en se disant, ben voilà, puisque les Russes sont en train de s'effondrer, et les Israéliens ont une armée qui, elle, est en pleine forme, avec du matériel ultra sophistiqué, contrairement à ce que nous montrent les Russes en Ukraine, et ben allons-y, chargeons les Iraniens, puisqu'ils baissent, et nous sommes menacés par les Iraniens, allons-y. Tout le monde y a pensé, mais pas forcément longtemps, parce que ça n'est pas faisable non plus, à moins de déclencher, pour le coup, un conflit avec les Russes, et donc il ne faut pas, si vous voulez, on va dire exagérer, et par ailleurs, les Israéliens aussi prennent les leçons de ce qui se passe en Ukraine. Mieux vaut avoir une action pondérée, des actions, plutôt qu'une sortie qui n'est pas envisagée sérieusement de chars et d'avions sur le théâtre syrien. Alors, étonnamment, il ne faut pas non plus que ça aille trop loin. Je vous dis étonnamment, je le répète, parce que les Israéliens sont des partenaires des Russes. Ils sont des partenaires économiques importants. Et donc, Israël ne souhaite pas non plus un effondrement total de l'économie russe, une débâcle du régime actuel au pouvoir en Russie, surtout du pouvoir économique des Russes, parce qu'il y a aujourd'hui des alliances qui sont croisées, non seulement avec les Américains, bien sûr, mais aussi avec les Russes. Et là, encore une fois, ça n'est pas lié seulement à la personne de Benjamin Netanyahou. On a vu que ces alliances, ce commerce, et même parfois des joint ventures, des entreprises et russes et israéliennes continuent de travailler ensemble. Donc un effondrement de l'économie russe n'est pas non plus souhaité par les Israéliens. Je voudrais vous faire remarquer que plus de 50 000 juifs russes sont arrivés en Israël depuis février, c'est-à-dire depuis le début de l'intervention de l'armée russe en Ukraine, et que c'est énorme parce que c'est plus que le nombre d'Ukrainiens. C'est presque le double. Alors tout le monde attend les Ukrainiens, puisque c'est chez eux, malheureusement, que les dégâts sont les plus importants. Non, les Russes sont plus importants. Et le grand rabbin de Moscou, qui était notre invité cette semaine sur Radio Shalom, nous a même fait remarquer que, sachant que la plupart des Juifs russes avaient déjà anticipé des problèmes, celui-ci ou un autre, mais avaient déjà une forme de crainte et de manque de confiance dans la stabilité de l'économie ou du régime russe, beaucoup avaient déjà fait leur papier. Ce qui fait qu'ils n'entrent pas dans les statistiques. Quand on vous dit 50 000 Juifs russes sont arrivés en Israël depuis février, depuis l'intervention, ça ne compte pas ceux qui s'étaient inscrits auparavant, parce qu'ils étaient déjà israéliens. Donc on les compte pas, ce qui fait que les chiffres sont encore plus importants. Tout ça pour vous dire que, oui, étonnamment, Dieu sait que les Israéliens n'ont pas cherché, n'ont rien à voir même avec cette histoire, mais étonnamment, les mauvaises affaires de Vladimir Poutine en Syrie l'aident, et c'est important, d'autant plus que cette semaine, on a fêté le deuxième anniversaire des accords d'Abraham, avec donc d'autres pays, puisque vous les connaissez, c'est Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Maroc, avec ces pays-là, on est en train d'avancer, et donc la position diplomatique et économique d'Israël est en situation d'amélioration suite à les facteurs que je viens d'évoquer.